Merci beaucoup pour cette introduction et aussi pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici au Musée des Impressionnismes et dans une manifestation qui est fortement associée aux activités de la Fondation Terra, qui soutient énormément notre université et avec laquelle j'ai eu le plaisir d'avoir de nombreuses coopération jusqu'ici. Je remercie tout particulièrement donc Verle Tillemans et Katie Bourguignon pour tout cela. Aujourd'hui, je ne pense pas revenir tellement sur la série des cathédrales elles-mêmes, puisque c'est quelque chose qui a été bien abordé à plusieurs reprises et sur lequel on revient dans notre exposition. Mais je pense essayer de relire avec vous l'article très souvent cité, mais peut-être assez rarement finalement regardé de près, article essentiel de Georges Clemenceau, Révolution de cathédrale. En mars 1892, Octave Mirbeau relate sa visite à l'exposition des peupliers de Claude Monet et, ayant appris que le peintre a entrepris de peindre des cathédrales, il écrit dans une lettre qui faisait partie de la correspondance passée en vente il y a quelques années. « Ah, j'en rêve de vos cathédrales, et ça va être encore un Monet qu'on ne connaît pas. Ce sera curieux de rapprocher vos toiles de Rouen de celles de Saint-Germain l'Auxerrois. » Il termine ainsi sa lettre. « À bientôt, dites, grand cathédraliste. Oh, vous qui savez ce que chante le peuplier. » Donc cette formulation de grand cathédraliste est assez intéressante. Et en effet, avec cette série qui le fait invoquer, ou peut-être même sacré par Mirbeau, grand cathédraliste, Claude Monet entreprend un projet bien différent des paysages champêtres des précédentes séries, qui ont été celles des Meules et des Peupliers de l'Ept, en ce pays de Giverny dont il est considéré un peu comme le dieu local, pour reprendre les termes de Hippolyte Taine, qui est présent dans sa bibliothèque, comme un exemplaire annoté. Il fait face à la cathédrale, chef-d'œuvre du passé gothique, site monumental catholique, mais aussi lieu de mémoire républicain de la nation française, comme l'ont souligné d'autres travaux, et je renvoie aussi particulièrement à l'ouvrage de Paul Tucker sur les séries des années 90. Commencé en 1892 à Rouen, poursuivi sur place en 1893, mais aussi retravaillé à Giverny, et daté 1894 lorsqu'il signe ses toiles, cette abondante série prend pour titre unique la cathédrale de Rouen, quand Monet en présente 20 toiles réunies à l'exposition de la Galerie Durand-Ruel en 1895. Ce sont les numéros 1345 à 1356 du catalogue raisonné Wildenstein. Cette communication abordera la série impressionniste inspirée à Monet par la façade du monument patrimonial par excellence qu'est la cathédrale, comme un exemple significatif permettant, sous l'angle de la question soulevée par cette journée d'études et introduite par la communication, mais aussi par l'ouvrage de Philippe Nord, de mettre en évidence le rapport entre art et politique dans la peinture impressionniste, mais d'une façon peut-être assez paradoxale. Elle prendra appui sur la relecture de cette page célèbre de Georges Clemenceau, qui, au sortir de sa visite à l'exposition de Monet en 1895, titre « Révolution de cathédrale, son article de la justice », une adresse au président de la République, en la rapprochant de, et c'est ce que j'essaierai de faire en conclusion, de la notion de révolution symbolique introduite par Pierre Bourdieu à propos de Manet. Alors, examinons d'abord le contexte éditorial de cet article. Le lundi 20 mai 1895, sur 6 colonnes à la une de la justice, Georges Clemenceau signe sur l'exposition de Monet son grand article de critique d'art tout en s'excusant d'emprunter ce rôle. J'en demande pardon aux professionnels, je ne puis résister à l'envie de m'établir pour un jour critique d'art. C'est sa captatio benevolentiae du début. Rappelons que Clémenceau, républicain radical, est alors le rédacteur en chef, dont le nom apparaît en grosses lettres sous le titre du quotidien fondé en 1880, dont Gustave Geffroy, devenu l'ami de Monet depuis 1886, est le critique d'art attitré. Et Clémenceau y signe d'innombrables éditoriaux. Mais cet éditorial est un éditorial atypique. En effet, il remplit une pleine page dans un journal politique, mais il est bien différent des autres éditoriaux. Et c'est ce qu'on peut voir en comparant avec les éditoriaux précédents et suivants. La veille, il n'y avait pas un éditorial très important, mais c'était un dimanche, simplement une sorte de tribune de quip, brouille absurde, qui traitait de la question des tarifs douaniers avec la Suisse, et qui évoquait aussi toutes sortes d'autres sujets, le travail des, sur la une, on avait le travail des enfants à Londres, question d'hygiène, etc. La une est assez éparse dans sa composition. Le surlendemain, le mercredi 22 mai, c'est Clémenceau qui signe à son tour un éditorial, comme il le fait souvent, dont le message est tout à fait politique, mais joue également sur le registre religieux. Son éditorial couvre cette fois-ci trois colonnes sous le titre « Horizon social ». Et à partir d'une phrase trouvée dans la Revue Blanche qui lui sert d'introduction, il file la métaphore de la prière collective en lui donnant un contenu social. Je pense qu'indirectement, on peut penser à la sculpture de Monet, la cathédrale, avec ses deux mains qui sont deux mains d'ouvriers. Je cite Clémenceau, « Donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien, telle est la prière que M. Victor Barucan adresse à ses contemporains dans un remarquable article de la Revue Blanche. » Le thème de l'article est le suivant. « Partant du constat de l'assainissement du logement et du confort moderne qui marque les bienfaits de la civilisation, Clémenceau s'indigne de la misère des plus pauvres et invoque pour eux le droit au pain quotidien en revendiquant une plus grande justice sociale. » Il est intéressant de noter que ce nouvel éditorial semble, même si le mot « cathédrale » n'y figure pas, évoquer le potentiel révolutionnaire du message évangélique. Il écrit ceci, « Oui, 1800 ans après le Christ, c'est une révolution chez les chrétiens que de prévenir la mort d'êtres humains par la faim, F-A-I-M, lente ou rapide. » Il interpelle la chrétienté en termes politiques. Il introduit aussi une perspective de longue durée, semblable à celle que sollicite la vision d'un monument multiséculaire dans son approche qui traite du progrès de la civilisation pour s'indigner de la discordance entre ce progrès et l'accomplissement des valeurs du christianisme dont la cathédrale est le symbole, devenu symbole républicain. Et l'épilogue est d'ailleurs extrêmement véhément. « Il vous paraît difficile, dites-vous, de donner le pain aux misérables. Commencez donc par ne pas le leur enlever. Ah, monsieur Léon Zay, que votre économie politique coûte de crampes à des hommes qui ont faim. » Revenons à l'article « Révolution de cathédrale ». Le mot « révolution » introduit dans le titre « Révolution de cathédrale » a toute sa signification dans un tel journal. Mais son rapprochement du mot « cathédrale » entraîne un effet de surprise. On n'attend pas du tout à ce que ces deux noms soient accolés. Tant différents sont les univers auxquels ils sont associés. Le nom propre de Monet et le thème pictural ne sont d'ailleurs mis en avant que dans le premier paragraphe de l'article, son incipit, où Clémenceau renvoie à son expérience de visite à l'exposition qui l'a bouleversée, bien qu'il ait déjà vu dans l'atelier de Giverny les études de la cathédrale de Rouen. Cette révolution dont il s'agit n'est pas politique, mais artistique. Et c'est aussi une expérience personnelle, bouleversante, qui l'a entraîné sur le terrain de la critique d'art et suscite sa prise de parole à la une de son journal, en cet emplacement essentiel du journal. qui est, on l'a rappelé tout à l'heure, celui-même qui est celui du J'accuse, dans l'Aurore, bien sûr. Et voilà que cette cathédrale, aux multiples aspects, je l'ai emportée avec moi, sans savoir comment. Je ne puis m'en débarrasser, elle m'obsède, il faut que j'en parle, et bien ou mal, j'en parlerai. Tout comme le critique d'art du réalisme Jules Castagnari, dans les années 1860, qui se dit paysan du Danube en matière de critique, Clémenceau revendique ainsi sa position non professionnelle et sa qualité de simple visiteur, plutôt que d'amateur ou de collectionneur ou de critique, pour mettre en évidence le caractère universel et démocratique de l'art de Monet, qui est accessible à tous, comme l'est aussi la divine lumière. Je me présente tout simplement un de ces êtres à deux pieds, dont le principal mérite est de promener sur la terre une paire d'yeux, prêts à jouir de toutes les fêtes que nous offre la divine lumière. Et un peu plus loin, il n'est pas besoin du tout d'être millionnaire pour se procurer les jouissances d'art supérieures à celles du malheureux amateur condamné à user pendant 20 ans des mêmes épithètes stériles sur les mêmes toiles obstinément immuables. Tout au long de l'article, il revient tantôt sur le miracle et tantôt sur la révolution de la série de Monet et transfère ainsi au vocabulaire de la critique d'art un registre politique et ou religieux. La notion d'avant-garde, formulée à propos de la peinture de Monet et des impressionnistes, a été mise en exergue par le titre du livre de Théodore Duret, « Critique d'avant-garde », publié par l'éditeur Charpentier en 1885, et elle est, elle aussi, issue du vocabulaire politique. C'est une chose bien connue, puisqu'elle reprend un terme introduit par les Saint-Simoniens, sous la monarchie de Juillet, dans les années romantiques. Présent dans la bibliothèque de Monet, avec une dédicace de l'auteur, ce livre inclut la réédition de la préface de Duret à la première exposition personnelle de Monet dans la galerie La Vie moderne de l'éditeur Charpentier en 1880. Quant au thème du miracle de la nature, il est rapidement introduit et répété très fréquemment tout au long de l'article. C'est vraiment d'une façon lancinante pratiquement. Eh bien, cette mouvante merveille à toute heure qui surgit à nos yeux, de tous les spectacles de la planète lumineuse, ce miracle changeant qui ne cesse que pour enfanter d'autres miracles, cette intensité de vie qui nous vient de l'homme ou de la bête, mais qui nous vient aussi de l'herbe, du bois et de la pierre, la terre nous en prodigue la fête sans jamais se lasser. Clémenceau défend l'idée panthéiste des merveilles de la nature, celle des miraculeuses réalités, dans une pensée qui rejoint celle du spectacle de la nature de l'abbé Pluche à l'époque des Lumières. Je m'aperçois alors que pendant que mon noble curé se met à la torture pour m'ébahir des miracles qui n'en sont pas, je vis, moi, au sein d'un perpétuel prodige qui m'affole et m'enivre de miraculeuses réalités. Ce miracle des merveilles de la nature offert à l'humanité entière est le propos de tous les monuments de l'art. Et je le cite encore, « Depuis la hache primitive d'une proportion heureuse et d'une coloration puissante, depuis les profils d'ours et de mammouth qu'un Léonard de l'âge de pierre dessina sur les eaux du musée de Saint-Germain, jusqu'à la cathédrale de Monet. » Et l'histoire de l'art apparaît ainsi comme celle, je le cite encore, « des phases de vision par où notre race, la race humaine, a passé. » Alors maintenant, je vais introduire un autre point qui est celui de la souveraineté de la lumière et de la révolution du regard impressionniste comme révolution entre art et science. L'histoire de l'art comme celle du paysage est interprétée à l'aune des évolutions qui s'y sont produites, comme le rappelle Clémenceau, citant Gustave Geffroy après, et aussi Théophile Gautier. Il rappelle qu'avec Corot et l'école de 1830, le paysage classique a pris fin et la peinture a progressivement appris à rendre la lumière solaire et le plein air. Ce sont des thèmes qu'on trouve dans la critique d'art depuis même les années 1850, chez Théophile Sylvestre, par exemple. La suite de l'article tend à qualifier l'art de Monet sous l'angle d'une révolution du regard qui a su s'accorder à la révolution du soleil et glorifier la souveraineté, c'est son terme, nouveau terme qui glisse dans le vocabulaire de la philosophie politique, de la lumière. C'était une révolution qui commençait, une manière nouvelle de regarder, de sentir, d'exprimer. Le terme de révolution, avec les séries de Monet dont Clémenceau rappelle la succession, est qualifié en termes optiques et glisse ensuite vers un nouveau sens, du côté du langage de l'astronomie, dans des passages bien connus et souvent cités de son éditorial. Et l'art de Monet atteint même à la fin de l'article à une portée cosmique fondée sur son travail pictural de restitution de la perception temporelle des changements d'éclairage en lumière naturelle. La rhétorique qui procède de l'écriture du journalisme, avec une succession de métaphores aussi, de l'article de Clémenceau, est ainsi fondée sur l'interpénétration des langages, mais aussi des registres politiques et artistiques. Ce qu'appelle sa publication dans le quotidien, en lieu et place d'un éditorial politique, et par l'application de l'idée de révolution à une pluralité de domaines scientifiques, depuis ceux de la vision et de l'optique, jusqu'à ceux du cosmos et de l'astronomie, ou encore de la physique, des ondes lumineuses, des atomes, ce sont des mots qu'il utilise, que la révolution artistique de Monet intègre à son expérience picturale. Cette quête artistique qui s'est accomplie dans l'art de Monet devient pratiquement une sorte de quête alchimique, dont la lumière serait la pierre philosophale, mais elle est communément partagée et prend en compte la révolution de la sensation et de la perception que l'époque a fait expérimenter aux contemporains. Le programme esthétique de l'artiste consiste à être à même de l'appréhender et de la rendre dans son art. Alors, je vous donne certaines de ces citations où on trouve ces références à la conception de l'optique, la réflexion sur le phénomène lumineux, transition infinie de tous les moments du jour, la mobile lumière. Et puis, toutes ces idées de vibrations lumineuses, d'ondes lumineuses. Et tout ce programme est résumé en une formule. Voici ce qu'il faut voir maintenant, ce qu'il faut exprimer par la peinture, ce qu'il faut décomposer de l'œil et recomposer de la main. La conclusion de tout ce développement emphatique dans lequel mains registres sont imbriqués de façon à faire de l'artiste une sorte d'œil contribue à la mise en place d'un mythe tenace pour Monet, le mythe de Monet peintre optique, dont l'œil serait précurseur. Geffroy écrit « L'œil de Monet, précurseur, nous devance et nous guide dans l'évolution visuelle qui rend plus pénétrante et plus subtile notre perception du monde. » Le thème de l'artiste précurseur de notre perception du monde rejoint à nouveau ces postulats de la notion d'avant-garde. Légende des siècles et dans le célèbre poème « La vision du poète » selon lequel l'artiste est une sorte de prophète ou de mage. Quant au thème de l'artiste œil, c'est là une figure que l'on peut déduire de la théorie naturaliste de Zola sur le coin de nature vu à travers un tempérament. L'enregistrement du coin de nature, quel que soit l'appareil ou le dispositif optique, passe par le tempérament de l'artiste qui pose son regard sur la nature, qui restitue sa façon de voir par son style. Zola reprend à son compte l'idée de corrélation entre le subjectif et l'objectif, défendu déjà par Baudelaire. La métonymie de l'artiste par l'œil a été mise en place par l'historiographie critique à propos de Courbet à travers différents textes de Jules Castagnieri, selon un jugement qu'il réaffirme dans beaucoup de textes, mais qu'il soutient particulièrement dans la préface à l'exposition de l'École des Beaux-Arts de mai 1882, organisée pour réhabiliter le déboulonneur de la colonne Vendôme. Et dans ce texte de Castagnieri, il parlait de l'œil de Courbet et le comparait à un miroir subtil. Je le cite, « Son œil était un miroir plus fin et plus sûr, où les sensations les plus fugitives, les nuances les plus délicates venaient se préciser. » S'agissant de Monet, ce thème de l'œil sera repris par Cézanne dans les entretiens avec Gasquet en une formule assez perfide, qui souligne que Monet est un œil avant tout. Toutefois, la singularité du texte manifeste de Clémenceau est d'avoir introduit une dimension nouvelle dans cette perception optique de l'art de Monet, celle de la temporalité, qui est rendue par la série de 20 toiles et par leurs effets choisis. Il introduit l'idée du battement du pouls, des moments du modèle, des manières d'être de la cathédrale à la seconde près, qui sont transposées en une ronde de tableaux, répondant à ce qu'il appelle notre actuelle rétine, qui poursuit sa révolution giratoire autour du peintre-spectateur et dont l'œil, sur le portail des peintures de la cathédrale, est évoqué par la représentation de l'horloge, signalée en orangé et contrastant avec la dominante bleue de la peinture, qui devient une sorte de rétinographie. Alors, j'avais un détail, il faut que je le retrouve. Oui, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà, ce détail de... Il y a une dernière définition du terme de révolution dans ce titre, Révolution de cathédrale, que l'on peut mettre en relation avec l'idée de la mise en exposition et du coup d'œil panoramique sur les 20 tableaux exposés ensemble. En effet, la série exposée induit un nouveau sens du terme de révolution de cathédrale faisant cercle autour du spectateur, et Clémenceau, qui est venu là en visiteur, dans la galerie, propose à son tour une nouvelle présentation pour l'exposition dont la sérialité ne serait pas temporelle mais chromatique. Et alors vous voyez la citation, il l'appellerait série grise, série blanche, série irisée, série bleue. Après un très beau passage sur l'imagination matérielle sollicitée par Monet qui donne vie à la matière morte de la pierre et qui la fait renaître en fleur de pierre, Clémenceau s'intéresse à l'accrochage et imagine un nouveau miracle. Je le cite encore. Supposez-les rangés aux quatre murailles comme aujourd'hui, mais en série de transitions de lumière. La grande masse noire au début de la série grise qui va toujours s'éclairant. La série blanche allant de la lumière fondue aux précisions éclatantes qui se continuent et s'achèvent dans les feux de la série irisée, lesquelles s'apaisent dans le calme de la série bleue et s'évanouissent dans la divine brume d'azur. Dans une lettre de mai 1895, le critique d'art Gustave Geffroy est allé jusqu'à suggérer à Monet de refaire son accrochage ou même de le laisser refaire en s'accordant à la proposition de Clémenceau. J'avais la citation. Non, pardon. Je croyais que j'avais mis la citation ici. Vous devriez venir, ne fût-ce qu'une journée, pour essayer l'arrangement de cathédrale fait par Clémenceau dans son article. Ou bien autorisez-nous à le faire et venez voir. Quel bel article, hein ? Quelle admirable éloquence, quelle mise en contact de l'art et de la science. J'en ai été bien, bien heureux. Voilà, c'est une lettre toujours de cette collection qui a été mise en vente il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, l'on ne sait rien de l'histoire de l'accrochage de l'exposition des cathédrales, ni a fortiori d'un éventuel changement d'accrochage qui aurait pu se produire. On a simplement comme indicateur l'organisation du catalogue, le titre générique, la cathédrale de Rouen, et les différents titres numérotés des tableaux exposés. Cette dernière proposition d'accrochage chromatique pour une révolution de cathédrale émanant de Clémenceau n'est pas sans préfigurer le dispositif panoramique imaginé pour les nymphéas dans le troisième atelier de Giverny, mis en évidence par celui-ci d'ailleurs lorsqu'il va visiter l'atelier de Monet. Et en effet, quand Clémenceau vient dans l'atelier de Giverny où Monet est en train de peindre les nymphéas, il pense tout de suite au dispositif du panorama où le spectateur est au milieu d'une ronde de tableaux qui font une sorte de révolution giratoire autour de lui. C'est ce même aménagement qui sera d'ailleurs proposé dans le premier projet pour l'aménagement des nymphéas, initié par l'architecte Bonnier, dans une rotonde panoramique qui aurait pu prendre place dans le jardin de ce qui devait devenir le musée Rodin. Cette dernière acception du terme « révolution », ce grand coup d'œil circulaire, c'est le terme de Clémenceau, est mise en relation avec une conception prismatique de la lumière par laquelle il fait référence aussi aux théories de Newton, mais aussi une conception cyclique du temps dans les cathédrales de Monet. Comme l'exprime cette phrase magnifique et très souvent citée sur la révélation du prodige, nouvelle formulation du miracle de la peinture. Alors, d'un grand coup d'œil circulaire, vous auriez, dans un éblouissement, la perception du monstre, la révélation du prodige. Et ces cathédrales grises, qui sont de pourpre ou d'azur violetées d'or, et ces cathédrales blanches aux portiques de feu, ruisselantes de flammes vertes, rouges ou bleues, et ces cathédrales d'iris qui semblent vues au travers d'un prisme tournant, et ces cathédrales bleues qui sont roses, vous donneraient tout à coup la durable vision non pas de 20, mais de 100, de 1000, d'un milliard d'états de la cathédrale de toujours dans le cycle immense des soleils. Ce serait la vie même, telle que la sensation nous en peut être donnée dans sa réalité la plus intense, ultime perfection d'art jusqu'ici non atteinte. La conclusion de l'article de Clémenceau porte sur la valeur d'œuvre unique de la série qui s'apprête à être démembrée sur le marché et qu'aucun amateur n'aura eu l'idée d'acheter en entier. Il interpelle alors Félix Faure, le président de la République, pour demander, tout en sachant que sa demande sera vaine, l'intervention de l'ATA pour un achat de l'ensemble. Le dispositif panoramique apparaît comme la meilleure forme de présentation de cette œuvre qui travaille sur le croisement de l'espace et du temps, sur l'espace-temps, dans la confrontation au sujet le plus patrimonial, celui des cathédrales de France, à travers le thème de la cathédrale de Rouen, titre unique que Monet a choisi pour la série de ses différents effets qui représentent sa révolution sans coup de fusil, une révolution symbolique. Telle est la péroraison de son article. C'est-à-dire un moment de l'homme lui-même, une révolution sans coup de fusil. Cette rhétorique de tribun a permis l'écriture d'un texte majeur de l'histoire de la critique d'art, renforcé par son mode de publication et son emplacement de publication dans le journal. J'ai voulu relire avec vous ce texte parce qu'on le connaît bien sûr, il est très familier, mais il me semble qu'il apporte une dimension intéressante au propos de notre journée. Il donne à un texte de critique d'art une forte valeur de manifeste. Il lui donne une connotation politique tout en respectant l'idée de la singularité de l'expérience artistique. Et alors pour conclure, je voudrais revenir à Pierre Bourdieu qui, dans son cours du Collège de France sur Manet, dispensé en 1998-99 et 1999-2000, que Christophe Charles et toute une équipe vient de publier en 2013, il a introduit ici la notion de révolution symbolique et je dois dire que c'est à partir de cette notion que j'ai été incitée à relire justement le texte important de Clémenceau. Il s'appuie, comme l'a montré Christophe Charles, sur la notion de forme symbolique qu'il doit à Cassirer et pose la question de la rupture artistique associée à la notion d'avant-garde mais aussi à la structure du champ religieux. Comme la vision religieuse, la vision artistique est une vision du monde. Il parle aussi de l'idée de changement d'œil, c'est un des termes qu'utilise Bourdieu. Il me semble que beaucoup d'attendus de son texte sur Manet, qui font partie des dogmes du modernisme artistique et qui ont d'une certaine manière un peu leur date aussi, apparaissent déjà dans l'article de Clémenceau sur la série des cathédrales de Monet, « Révolution de cathédrale », qui considère qu'une révolution artistique peut avoir valeur de révolution politique sans qu'on aille du côté de ce qui serait le danger de l'illusion du reflet, de la théorie du reflet, bien sûr. Cette façon d'aborder la peinture de Monet conduit à une appréciation bien différente de l'œil du peintre que celle qui en est habituellement donnée. Elle prouve que dans l'histoire de paysage, depuis l'école de 1830 jusqu'aux cathédrales de Monet, une révolution artistique a eu lieu qui permet à la fois de rendre compte de l'autonomie du champ pictural, mais aussi de prendre en compte toutes les dimensions des révolutions contemporaines qu'a cité Clémenceau, notamment celle de la perception d'une nouvelle dimension de l'œuvre d'art, celle de l'espace-temps, qu'il doit à une réflexion sur les développements de la science, de la physique et de l'optique, et qui l'engage par la série « Une et multiple », et par les procédures de la mise en exposition. Je vous remercie.